Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Microsoft Experience Circle. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour discuter avec nous des changements finalement de règles dans le monde de la vie publique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque le numérique rencontre le citoyen? C'est un petit peu ce qu'on va essayer d'explorer ce soir tous ensemble. Alors, Microsoft Experience Circle, c'est quoi? Vous connaissiez peut-être les Tech Days. Les Tech Days, pendant quasiment 10 ans, ça a été le rendez-vous, le grand forum du numérique en France et en Europe, un événement qui a réussi à réunir pendant plus d'une, quasiment une dizaine d'années, 18 000 personnes physiques et plus de 140 000 personnes en ligne pendant 3 jours. Ça faisait la 10e année et on s'est dit on va changer puisque c'est le bon moment de changer, c'est quand tout va bien. Donc on a décidé de changer un peu à la fois la date, le format et l'événement en tant que tel. Désormais, on se redonnera rendez-vous le 4 et le 5 octobre pour discuter de business de numérique et de transformation des organisations de la société. Et puis, tout le long de l'année, on retrouvera finalement tous ces contenus disponibles en ligne sur un site qui s'appelle Microsoft Experience Online. Jusque-là, tout va bien. L'idée aussi de ces circles, c'est finalement de confronter un petit peu la théorie, ce qu'on peut lire autour du numérique, dans la presse, dans les médias de manière générale, avec ceux qui le font, avec ceux qui le vivent. C'est des choses qu'on a déjà initiées depuis maintenant à peu près 18 mois autour de formats qu'on a appelés les digitaux, qui permettent finalement de traiter un peu ces rencontres sous l'angle du numérique par rapport à la société, et véritablement de confronter les points de vue. C'est ce qu'on va essayer encore une fois de faire ce soir, tous ensemble. J'en profite pour me présenter. Nicolas Petit, directeur général en charge du marketing et des opérations de Microsoft France. Et
à moi
Laurence,
la parole.
Je t'en prie.
Bonsoir à tous. Donc, Laurence Lafont, moi, je dirige la division secteur public de Microsoft France. Ravie de vous accueillir pour ce format un peu inédit que l'on teste. Voilà, pour l'objectif étant vraiment ce soir d'être dans le débat, la controverse, on l'espère en tout cas, pour faire avancer la réflexion sur l'évolution des services publics et le numérique. Alors le numérique, il disrupte, je ne sais même pas si ce mot existe dans le...
Je sais pas.
Voilà, transforme l'ensemble des domaines d'activité. On parle d'ubérisation, on aura certainement l'occasion d'en reparler avec Alexandre tout à l'heure. Le secteur public risque-t-il de se faire ubériser? Les usagers citoyens que nous sommes et qui avons des attentes très fortes finalement sur les services numériques, eh bien, sommes-nous en capacité de transformer, d'accompagner cette transformation du secteur public? Comment le secteur public réagit? Comment les agents aussi participent de cette transformation? Voilà quelques points que nous allons essayer de discuter ce soir, en tout cas sur lesquels amener des points de vue, je l'espère, divers dans le cadre de la réflexion. Alors, sans plus attendre, je souhaiterais introduire et présenter donc, nos intervenants, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de se prêter à cet exercice et de témoigner donc, leur point de vue sur ce sujet des services publics et du numérique. Louison, tout d'abord, merci d'être présente ce soir. Merci d'avoir contribué à cette superbe... Voilà, le micro tombe. J'en perds mon micro. Donc Louison, dessinatrice engagée et qui nous donnera son point de vue également et bien sur la citoyenneté et le numérique dans quelques instants. Et puis ensuite, nous aurons donc un débat animé avec quatre intervenants. Donc Muriel Barnéou, présidente directrice générale de DocaPost, filiale de La Poste, très également active sur les sujets du numérique et de la confiance dans le numérique, on en reparlera. Brigitte Dumel, qui est ici donc, à la CFDT Fonction publique. Là aussi, on va pouvoir aborder la dimension de l'agent et le rôle de l'agent dans ce contexte. Alexandre Quintard-Fèvre, qui a œuvré au sein d'Etalab pendant quelques années, quatre ans, et qui est maintenant aux affaires publiques chez Uber. Alors ça va être intéressant d'avoir ton point de vue aussi sur les différences ou pas peut-être entre la gestion de la donnée, la monétisation de la donnée dans le secteur public et dans le secteur privé. Et puis enfin Jérôme Coutan, donc Société du Grand Paris. Voilà, donc Jérôme, il nous prépare le métro du Grand Paris activement et surtout la place du numérique dans ce grand projet. Le numérique intégré by design dans la démarche du Grand Paris et du métro du Grand Paris. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà. Donc, merci à tous. Et donc, sans plus attendre, je laisse Louison introduire cette soirée.
Super. Je me mets là, hein. D'accord. Alors. C'est comme à l'école. Donc, alors moi, je fais un métier d'image, pas un métier de parole. Donc, pardon si je parle trop vite, pardon si je fais des grands signes, si vous ne comprenez pas ce que je raconte, j'ai l'habitude. Moi, j'ai fait une expérience du numérique un peu extrême il y a 2 semaines, c'est que j'ai déclaré mes impôts en ligne. J'ai perdu 11 ans d'espérance de vie à peu près. Je me suis couchée à 8 heures du soir parce que je n'en pouvais plus. Il manquait un truc qui était mon numéro fiscal. Et sur le site, il y avait marqué « Votre numéro fiscal se trouve ici ». Enfin, et ça m'a rappelé un dessin animé, je regardais petite, de Astérix et les 12 travaux, où ils doivent trouver le formulaire, le laisser passer à 38. Et bien, c'était pareil. C'est-à-dire que, quel que soit la truc, enfin, on m'orientait vers des forums, vers des... Enfin, il y a vraiment un moment où j'ai voulu mettre en boule sur mon bureau et attendre que ça passe et partir vivre une vie de bohème et ne plus jamais déclarer le moindre impôt. Mais je l'ai fait. J'ai dû me tromper à 15 endroits, mais je l'ai fait. Et je me suis quand même rendu compte que c'était plus simple d'aller s'auto-diagnostiquer une maladie orpheline sur Doctissimo que d'aller déclarer son revenu fiscal de référence. Donc il y a un truc qui clairement ne va pas. Enfin, clairement. Et donc, je pense que les technologies, en plus, sont là, donc c'est qu'on sait faire. Et comme vous l'entendez un tout petit peu, j'ai une santé fragile, comme tous les gens qui restent à l'intérieur, et j'ai fait l'expérience numéro 2, un peu extrême, de la carte vitale. Et ma pharmacienne m'a dit « Votre carte vitale n'est pas à jour ». J'ai dit « Je sais, ça fait 4 ans qu'il me la renvoie, mais c'est une sorte de relation un peu sadomasochiste entre nous, la sécurité sociale et moi, donc c'est pas grave ». Et elle m'a dit, mais allez sur amélie.fr, c'est hyper simple. Elle me dit Amélie sans E, au cas où je pensais que bon, c'était bon. Je n'avais jamais vu le site de la sécurité sociale à 31 ans, mais d'accord. Et je lui dis, mais on peut refaire une carte vitale. Elle m'a dit, mais c'est hyper simple, vous allez voir. Et je lui dis, on peut tout faire en ligne. Elle me dit, oui, vous inscrivez, et dans 8 jours, vous avez un formulaire par la poste. Et je fais, ah oui, mais ça, c'est pas tout en ligne, ça. Enfin, ça, c'est rien. Enfin, et ça m'a rappelé qu'il n'y a pas si longtemps, quand on était sur le site, de, je crois que c'était les APL, où on rentrait une demande de code secret et qui donc fallait rentrer son mail, son machin, et on avait une réponse qui nous disait « Votre code secret vous sera envoyé sur 10 jours par courrier. » Et donc, c'était il y a moins de 5 ans, hein, c'était pas très vieux comme souvenir. Donc je pense qu'effectivement, on a un peu de petite marge de progression. Je pense par exemple dans le domaine de la santé, qui est quand même ce qui est à peu près le plus important dans la vie de tous les jours, en tout cas ce qui est plus dans l'urgence. Je pense à une application qui existe depuis pas très longtemps, depuis un an et demi, qui permet de trouver la pharmacie de garde, enfin même pas la pharmacie ouverte, pas même pas forcément de garde, la plus proche de chez soi, ce qui est quand même une base, hein, c'est pas, enfin, et ça a été, enfin, quelque chose de très très dur à mettre en place, une sorte de grosse machine à caler, alors que ça paraît vraiment une sorte de fonction de base de son téléphone de pouvoir savoir, enfin. De la même façon que il est quand même beaucoup plus simple de trouver le restaurant qui est ouvert en bas de chez soi, voir le célibataire disponible en bas de chez soi, que trouver la pharmacie de garde. Donc il y a un truc qui... Enfin, maintenant oui, mais c'est quand même quelque chose qui montre que... Là encore, il y a un câble qui n'est pas branché dans le bon trou. Enfin, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et moi, justement, enfin, je travaille par le numérique, pour le numérique aussi. Ça fait partie de ma vie professionnelle depuis 6-7 ans maintenant, 7-8, je sais pas, 8. Et je sais à quel point un dessin, justement, est fait pour le numérique aussi, que même si je le fais sur un bout de papier, il va de toute façon avoir sa vie numérique, et que donc, on ne peut pas faire l'impasse de ça. Et c'est quelque chose qui, parfois, moi, me choque, parce que je pense à quelqu'un qui, comme... Ma grand-mère, qui pourtant est une nonagénaire sur Facebook, donc c'est quand même une petite perle rare. Mais je me dis, si elle a besoin de faire justement une déclaration en ligne, elle va exploser. Enfin, ça va être un truc. Enfin, ou elle va jeter son ordinateur par la fenêtre et elle aura bien raison. Il y a des trucs qui sont beaucoup trop compliqués, alors que encore une fois, il est tellement simple de commander une voiture en 5 minutes en bas de chez soi, pour parler d'Uber, dont je suis moi-même assez partisane et consommatrice, mais il y a une sorte de système à deux vitesses qui est parfois un tout petit peu comme le laisser-passer à 38, c'est-à-dire un endroit où on marche un peu sur la tête et où on se demande pourquoi il est plus simple d'aller un peu au futile qu'à l'essentiel. Et dans un registre comme ça, un peu, enfin, d'outils du numérique, J'ai assisté il y a quelques mois maintenant à un cours de secourisme post-attentat de novembre où donc dans les mairies d'arrondissement et la mairie de Paris, on nous proposait une formation. Pareil, il fallait s'inscrire en ligne, sauf que c'était écrit nulle part. Enfin, moi, je l'ai entendu à la radio par hasard. Bref, j'ai réussi à le faire. Mais quand je suis allée à l'accueil de ma mairie, j'ai vu 15 personnes refoulées parce qu'ils ne s'étaient pas inscrits. Avant, Vigipirate, ce n'est pas que ça, ils étaient avec leur pièce d'identité, donc c'était... Enfin... Et du coup, j'ai fait, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais j'ai retranscrit toutes mes deux heures de secourisme en dessin, et j'ai fait... La technologie, c'est mon côté Jérôme Bonaldi, ça ne marchera jamais. J'ai fait un Tumblr, qu'on va voir dans quelques instants. J'y ai cru. Ah, non. Ouais, c'est ça. Guestar, mon chien, qui est quand même un événement numérique à lui tout seul. Et en fait, le Tumblr est très long, ça s'appelle desgestesquisauvent.tumblr, hein, pas très compliqué. Et donc, il y a tout mon cours de secourisme. Là, c'est l'introduction avec Bernadette, histoire de mon chien, histoire de calmer un peu le rythme. Mais j'ai refait tous les trucs, le nombre de pulsations, les machins. Enfin, ça a été un travail assez long, mais le Tumblr permet que ça soit en accès libre. Il y a beaucoup de sites sur place, Croix-Rouge et autres, qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut reprendre vos illustrations ?» J'ai dit « Évidemment, c'est fait pour ça. » C'est ça, l'outil numérique aussi, c'est la libre... Qu'on me demande l'autorisation, c'est encore meilleur, mais celui-là, il était vraiment fait pour que ça circule. Re Bernadette, qui n'est pas... Vous la verrez un jour. Et donc, voilà. Et donc, ça m'a montré à quel point le numérique est indissociable. J'aurais pu aussi l'imprimer en 5000 exemplaires, effectivement, et le distribuer à chaque entrée de métro, mais je pense que, un, ça aurait coûté beaucoup d'arbres à la planète, et qu'en plus, les gens prennent un truc et le... Donc voilà, donc c'est vrai que c'est dans l'expérience numérique et une sorte de pilier dans ma façon de travailler et dans ma façon de vivre, et que je constate qu'il y a du boulot. Voilà.
Merci Bison pour ce propos et cet engagement à accélérer finalement le numérique au niveau des services publics et surtout l'ergonomie et de l'usage des services, parce qu'effectivement, je pense que la déclaration d'impôt, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme, moi je trouve ça bien, la déclaration d'impôt en ligne personnellement, mais c'est vrai que l'ergonomie est peut-être encore très calquée sur le formulaire papier, donc comment repenser aussi, grâce au numérique, une interface et une ergonomie des services publics différentes, certainement un des enjeux des mois et des années à venir. Et peut-être avant donc d'interroger Brigitte sur le côté agent, parce que je pense qu'il y a un point important dans ce que vous dites, qui est comment les agents sont prêts aussi à cette transformation aujourd'hui, parce que les services publics, il y a quand même des hommes, des femmes derrière qui opèrent au quotidien, donc il faut aussi opérer cette transformation en interne. Peut-être Muriel, sur une grande entreprise publique qui est La Poste aujourd'hui, qui opère sa transformation numérique, qui est aussi fortement... challenger dans ses services, hein, le courrier, je ne sais pas qui ici envoie encore des lettres papier à part à l'administration, mais on voit bien aujourd'hui le mail remplace très rapidement l'ensemble de nos correspondances. Quand je dis le mail, je ne parle même pas de Facebook, Twitter, etc. etc. Comment La Poste se prépare à cette transformation numérique? Il y a une relation de confiance, on le sait aussi, l'usager, l'utilisateur du service public finalement fait confiance à son service public. Donc comment est-ce que dans une migration vers des services numériques, eh bien, La Poste travaille aussi, et donc La Poste en particulier, sur cette notion de confiance numérique qui est finalement un peu le prérequis pour démocratiser et faire évoluer l'ensemble des services publics.
Oui, si je peux témoigner, je suis à la fois objet et sujet dans cette histoire. Donc La Poste vit de la transformation numérique des entreprises et des institutions, en fait, hein, puisqu'on vend des solutions de digitalisation des process dans des univers justement sécurisés. Et j'expliquerai un petit peu plus pourquoi on le fait. Et puis, donc La Poste est une fille de La Poste qui, elle, a d'abord vu le numérique comme le grand Satan. Hein, le truc qui nous faisait juste mourir et qu'on allait empêcher d'advenir. Alors, s'il y a une chose que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est que ça marche pas. cette vague numérique, ce n'est pas un truc de jeunes qui va s'arrêter et un phénomène de mode qui va se calmer. C'est quelque chose qui est extrêmement profond. Pour moi, c'est extrêmement profond parce que c'est un transfert de pouvoir extrêmement puissant. Je ne porte pas de jugement de valeur sur est-ce bien ou mal. On pourra en parler, mais à un autre moment en tout cas. Mais c'est un énorme transfert de pouvoir vers nous, les gens. C'est une sorte de fin des Trente Glorieuses, si vous voulez. Les Trente Glorieuses, c'était sympa. C'était l'époque, il y a plein de jeunes autour de nous, là. Vous n'avez pas connu, mais c'était une époque super sympa où les fournisseurs imposaient leurs conditions au marché. C'était facile parce que le bien, il était rare. Et donc, à ces époques-là, vous pouviez dire, par exemple, ben, nous, le rideau sera baissé le samedi et le dimanche. Et vous aurez mon service le samedi et le dimanche et vous vivrez heureux comme ça. Sauf que maintenant, le bien est abondant et c'est le client qui est rare parce qu'il zappe, parce que. Et donc le client, il dit, ah oui, mais moi, je veux ton service le samedi et le dimanche et tu vas le faire pour moi le samedi et le dimanche, même dans des univers qui peuvent paraître être des univers non marchands. Et si je veux télécharger ma procédure, Louison, mon document papier à 4 heures du matin plutôt que de poser un demi-jour de congé pour aller le retirer au guichet d'une institution quelle qu'elle soit, y compris la Poste, maintenant je peux le faire parce que je l'ai exigé, même si je ne suis pas dans une relation marchande. Donc pendant un moment, on a imaginé qu'on allait pouvoir empêcher ça. Ça peut vous faire sourire pour les plus jeunes, mais vraiment. Et puis on s'est vite rendu compte qu'il fallait apprendre et apprivoiser cette énergie et plutôt se poser la question de ce qu'allait être, nous, notre proposition de valeur, nous, la Poste, dans un univers qui allait être un univers totalement différent, qui allait être celui du digital. Il se trouve que dans cet univers-là, là, je commence à faire ma pub, hein. D'accord ? Enfin, pour ma maison. Il se trouve que dans cet univers-là, la question de la confiance, la question de la pérennité de l'acteur qui va manipuler un certain nombre de données est un énorme sujet. Donc, je dis, moi, post-GAFA, je ne sais pas s'il faut dire post-NATO, enfin bref, vous nous direz ce que vous en pensez, mais je crois qu'on est passé dans un monde aujourd'hui où on a un peu compris quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et DocaPost, d'une certaine manière, qui en fait preste pour de grandes entreprises et des plus petites autour de la transformation de leurs process, est l'incarnation de ça. Au fond, DocaPost, on nous paye pour quoi ? On nous paye pour ne pas commercialiser les données que l'on gère. On est premier hébergeur de données de santé en France. On traite plus de 10% des bulletins de salaire français. On a des bases de données extrêmement sensibles de jeunes mineurs franciliens, de jeunes mineurs abonnés à différents sujets. Je perds mes papiers. Merci beaucoup. Et au fond, les grandes entreprises qui sont nos clients, les grandes institutions qui sont nos clients, nous payent pourquoi ? Pour être certains que les données que l'on gère sont des données qui ne seront utilisées que pour les usages de leurs propriétaires, à savoir nos donneurs d'ordre. Et c'est comme ça que la Poste, petit à petit, se transforme dans sa proposition de valeur, en surfant sur, c'est plus que du surf au sens négatif du terme, hein, en ayant une proposition de valeur dans l'univers de la confiance, de la pérennité et de l'ubiquité. Voilà. L'élément le plus abouti étant un truc dont j'espère que vous êtes tous addicts, et si vous ne l'êtes pas, il faut que vous le deveniez, qui s'appelle Digipost Pass. Digipost Pass, c'est la fin de vos boîtes carton, si tant est que certains de qui nous entourent aient connu les boîtes carton. En tout cas, moi, j'ai essayé sur mes ados, ça n'a jamais marché. Consistant à vous permettre, Louison, de stocker, d'archiver pour toute la vie vos documents administratifs ou précieux. Je ne parle pas de vos dessins, qui sans doute sont très précieux, mais je parle de vos factures, je parle de vos relevés de compte, je parle de vos bulletins de salaire, de les avoir classés dans un ordre que vous choisissez, et puis de préparer un certain nombre de procédures, dont, devinez laquelle, le renouvellement de la carte vitale, de façon totalement numérique, avec des documents certifiés et reconnus. Voilà comment aujourd'hui, et puis on a encore des tas d'autres offres, mais je n'ai pas monopolisé la parole, voilà comment aujourd'hui on est passé d'un truc de le grand Satan dont on allait empêcher l'avènement à quelque chose qu'on essaie un peu plus de domestiquer comme une sorte d'énergie nouvelle, en apportant notre pierre dans cette histoire.
Est-ce que justement, là, t'écouter, DocaPost n'est pas en train de devenir ou d'ubériser un peu finalement de grandes administrations avec cette logique de stockage de données, d'informations et de fourniture d'un service pour préparer des démarches administratives de manière beaucoup plus simple?
C'est plus un enabler qu'un Uber. On est là. Non, mais tu as raison, c'est une vraie question. On est là justement pour permettre à des univers qui ont encore du mal à s'interfacer d'une manière full numérique et pour lesquels on vous dit, s'il vous plaît, téléchargez le document, imprimez-le, remplissez-le à la main, scannez-le, renvoyez-le par mail ou avec une lettre à la poste, à permettre que c'est ce qu'on appelle, on appelle ça du back-office dans nos univers, à permettre que ces back-office soient de même rang en termes de promesses que ce que vous allez avoir dans les fronts, dans un univers sécurisé. Donc on ne retire pas du pouvoir à l'institution parce qu'elle est propriétaire des données, elle est propriétaire de ses clients, enfin entre guillemets, de ses end-users, quoi, de ses utilisateurs finaux. On rend juste la chose possible dans des univers de confiance, qui veut dire signature en ligne, etc., archivage, identité numérique. Et c'est juste une mise en capacité, en fait.
Mais du coup, alors, ce qui est en synthèse de ce que vous disiez, il y a la notion de confiance, bien sûr, de service, de facilité. Quand on parle service public, on parle naturellement service, service pour le public. Ce qui est intéressant dans la présentation de Louison, c'est que oui, effectivement, sur certains cas, c'est vraiment plus facile de trouver un célibataire en bas de chez soi. Et pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt pour les personnes qui sont célibataires à se déclarer célibataires et à rejoindre un service qui va leur permettre de bénéficier d'une valeur ajoutée immédiate ou pas, qui est de rencontrer quelqu'un. La vraie question, du coup, si on renverse un peu cette proposition en se disant ça, c'est le service pour l'usager du service public ou pour le citoyen, quelle est la proposition de valeur finalement pour l'agent aussi public en tant que tel qui, lorsqu'il va avoir débarqué finalement un usager, j'imagine que ça arrive aussi régulièrement à la poste. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très 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 longtemps. J'avais reçu une notification sur mon smartphone, j'y vais, et là on me dit ah ben non, parce que c'était pas le bonjour, faut revenir lundi, etc. Et là, nécessairement, entre la potentielle simplicité du service numérique et la réalité potentielle d'une frustration émotionnelle en disant bah, c'est simple, finalement c'est pas si simple, et la réalité du numérique qui se confronte au monde, je pense que la discussion sur finalement de quelle manière on rend ça possible, vivable, y compris émotionnellement par les agents, c'est pour moi aussi un sujet intéressant.
Absolument. Parce que c'est un trans...
Pardon. Oui,
bien sûr.
Parce que c'est... Vous le voyez dans nos institutions, vous le voyez à la poste, mais souvenez-vous de Darty au moment où les vendeurs n'avaient pas la même chose
bien
que
sûr.
Ce qu'on voyait sur le site.
Hein,
c'est ces produits, ça. Il y a eu un moment où on avait plus d'infos, et c'est bien ça le sujet. C'est là où, moi, je suis une fille du service public, hein, je suis postière, je suis une vieille postière, et j'y suis rentrée par choix et par détermination, et voilà. Mais comment vous dire ça? Cet univers, il est perturbé et percuté au moins dans deux de ses fondamentaux. Le premier, c'est que nos services publics ont été construits sur l'idée d'une absolue uniformité de service. Riche ou pauvre, vous ferez la queue. J'exagère, c'est pas top, mais c'est quand même comme ça l'histoire. Hein. C'est-à-dire sur une forme de tout le monde le même service, qui était un énorme progrès, un énorme sujet de cohésion sociale et qui est très fort et qui on peut pas renier ses racines, elles sont très importantes. Alors que le digital, il arrive avec une hyper-personnalisation. Parce que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est être reconnu pour ce que l'on est. Louison, elle veut qu'on la reconnaisse et qu'elle n'ait pas à redire 20 fois qui elle est. Et voilà. Et nous, pareil, tous. Et donc, si vous avez fait vous avez commencé votre procédure à 4h du matin sur un truc de la poste, vous voulez que quand vous rentrez dans le guichet, on vous reconnaisse comme ayant tout fait et pas avoir à tout redire. Voilà. Ça, c'est super compliqué. Donc, il faut donner aussi un peu de temps aux institutions pour pivoter. C'est un gros pivotement. En tout cas, moi, je pense. Et le deuxième sujet, c'est que tout à coup, vous avez des gens qui arrivent en face de vous et qui en savent autant que vous sur ce qui est à faire. Hein ? Vous caricaturez avec le toubib chez qui vous allez, chez qui vous dites « je sais ce que j'ai et c'est ça qu'il faut me prescrire ». Je n'ai pas dit que c'était bien ou que c'était mal. Je dis juste c'est que tout à coup, nous accédons à des niveaux d'information qui font que vous êtes capable de dire à la personne qui vous accueille « non, ce n'est pas ça ». C'est pas comme ça que ça marche.
Ça renverse
c'est
la
pas
chose,
ça que vous dites. Et c'est terrible. Et quand les gars d'artistes se sont retrouvés avec ça, avec des gens qui disaient « Mais si, mais moi, il est à ce prix-là, le truc. » La seule façon, ça a été de... La seule réponse a été de donner à cette force de vente-là la même information que celle qui était celle dont disposaient les gens. C'est ça, ce, aussi, ce sujet de transfert de pouvoir. Et c'est pas si facile que ça dans des institutions. C'est pas, les gens ne sont pas idiots, ne sont pas tous dans le refus du changement. Pas du tout, pas du tout. Ils adorent servir les gens. Mais ces pivotements, ce sont des pivotements sur les racines qui sont plus faciles quand on démarre de rien, comme avec un Uber.
Ouais. Alexandre, il se fait beaucoup interpeller, mais on va attendre quelques minutes pour lui donner la parole. Il prépare ses points de réponse. Peut-être en rebond, justement, de ce que disaient Nicolas et Muriel, Brigitte Jumel, donc vous, secrétaire générale CFDT Fonction publique, donc très bien évidemment préoccupée par l'agent et comment l'agent évolue dans ce monde qui se numérise, et on voit bien, on ne peut pas opposer numérique et services traditionnels, et au contraire, il faut pouvoir intégrer de manière harmonieuse les canaux numériques par rapport au service qui est rendu de manière traditionnelle. Et là, l'agent est au cœur finalement du dispositif, parce que à la fin de la journée, que ce soit derrière un guichet d'accueil ou que ce soit dans une procédure administrative, il y a toujours un agent qui est quand même amené à traiter la demande de l'administré, ou de l'usager, ou du citoyen, quel qu'il soit en fonction du service rendu. Comment aujourd'hui, vous voyez-vous l'appétence des agents, leur niveau de préparation par rapport à cette transformation numérique qui est partout, leur engouement par rapport à cela, et quels sont finalement les défis et les enjeux que l'administration doit relever pour se préparer à être dans cette ère numérique à plein pied?
Ça commence mal parce que j'allais partir d'un exemple qui pour moi était une réussite de l'évolution de l'administration, à savoir la télédéclaration fiscale, en disant 14 millions de foyers qui télédéclarent, 42%, une progression de 12% par an. Bon, et je peux comprendre qu'effectivement ça marche pas à tous les coups, mais globalement c'est un des succès de la transformation numérique. Et j'ai envie de dire aussi, la transformation numérique, c'est une chose, la loi de finances, c'en est une autre. Et donc, la simplification de la déclaration fiscale, je me dis, ça vaudra la peine d'y réfléchir. Alors, de réfléchir avec les usagers, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut trouver les usagers qui représentent les usagers. Mais ça vaut la peine de se dire qu'on est un peu dans la co-construction et qu'on pourra simplifier. Je ne suis pas sûre qu'on pourra toujours tout simplifier en matière de déclaration fiscale. Bon, ceci... poser, désolé Louison, mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal, et qui en tout cas avec les entreprises marche bien, puisque déclaration fiscale et sociale, bon, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien passé. Deuxième point qui passe pas mal, et qui est une évolution qu'on constate, c'est au niveau de l'enseignement. On voit se multiplier, alors par-delà les cours en ligne, les MOOC, on voit se multiplier entre la maternelle et l'université, l'utilisation de tablettes, mais dans le cadre pédagogique, on a beaucoup d'enseignants qui, effectivement, et c'est, j'ai envie de dire, c'est presque d'autant plus quand on est dans une école rurale et quand on est dans un milieu qui est un petit peu éloigné du milieu urbain, que justement le recours au numérique apparaît comme une ouverture. C'est l'échange avec une autre école, par exemple. Avant, on faisait des échanges par courrier. Maintenant, on fait des échanges par tablette. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte aux gamins. Donc, on a quand même un certain nombre de domaines où on le voit. Les agents de la fonction publique, ils sont quand même 5 millions dans trois horizons différents, l'hospitalière, la fonction publique territoriale, la fonction publique de l'État. Bon, ils s'y mettent. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on est à 100% de numérique, mais c'est vrai qu'il y a eu cet effort. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, Louison, mais ce que vous disiez aussi, madame, rend d'autant plus important que cette transition, elle se construise avec les agents, je dis avec les usagers aussi, ou avec leurs représentants, en particulier dans les territoires. C'est important aussi que ce soit bien une réponse qui soit ciblée, même si... d'accord, ça ne va pas être possible de faire le document administratif hyper simple que tout le monde va remplir, d'autant plus qu'il y a quelquefois derrière des éléments de voilà, des éléments pénals, de fraude, et voilà, qu'on est obligé de respecter. la question qui peut... Alors, des attentes fortes des agents vis-à-vis de ça, il y a celle de la co-construction, je viens de le dire. La deuxième, c'est celle d'être sûr que la formation, la qualification va suivre. En gros, on a des agents aujourd'hui qui ont été formés sur une application, celle-là, et depuis, on ne les a pas reformés. Et donc, on n'est pas dans cette évolution permanente. Et dans un monde où, quand même, les choses bougent beaucoup, ben, finalement, te dire, tu as eu un stage il y a 4 ans, c'est super, et maintenant, on n'en reparle pas, ce n'est pas simple. On a eu 2 ou 3 beaux loupés aussi, hein, je ne voudrais pas dire qu'il y a eu des belles choses, et des beaux loupés. Ce qu'il y a de bien dans la fonction publique, c'est quand tu as des loupés, en général, les médias s'en emparent. Donc, tout le monde sait où sont les loupés. Le loupé que vous connaissez tous, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, c'est Louvois. Louvois, c'est cette application qui a permis qu'un certain nombre de militaires ne soient pas payés pendant plusieurs mois. Et donc, comme les militaires sont des gens qui n'ont pas le droit d'exprimer trop violemment leur mécontentement, ce sont les compagnes ou les compagnons de militaires qui ont manifesté contre cette application. Bon, alors on en a d'autres, on ne va pas aller faire le tour, on les connaît, lui et moi. Il y a eu aussi l'exemple de l'Office national de paye, qui a été une vraie catastrophe. Alors là, une vraie catastrophe, hein, c'était l'idée de centraliser la paye de 2 200 000 agents publics de l'État. Bon, en gros, au bout de 2 ou 3 ans de tâtonnement, on a fini par se dire que ce n'était pas la peine de faire du maintien en vie, et donc on a fermé la boutique. Donc on a quelques éléments un peu durs comme ça, qui viennent sans doute du fait que soit les agents ne sont pas formés à l'utilisation et se retrouvent un peu dépourvus et donc regardent un peu comment les choses se font, soit que l'outil n'était pas construit pour l'utilisation qu'on veut en faire. Dans les choses aussi qui peuvent être importantes, il y a quand même ce que vous disiez qui est très vrai et qui alors se manifeste, se croise et existe quand même un peu dans la fonction publique, c'est l'idée à un moment que si on a recours au numérique, on va faire des gains de productivité et que si on fait des gains de productivité, on pourra fonctionner en termes de réduction d'emploi. Et ça, c'est pas tout à fait. Alors, ça s'est passé, sur les dernières années, on a une montée en puissance du numérique et en même temps, on a une dette publique qui file et du coup, on a eu les réductions d'emplois. Ce n'était pas forcément lié à la montée en puissance du numérique, mais c'est arrivé à peu près en même temps, ce qui n'a pas forcément donné aux agents, mais je crois que là-dessus, c'est ce que vous disiez, donné aux agents l'envie d'y adhérer, puisque quelque part, ça apparaissait comme destructeur d'emplois. En fait, on se rend compte que ce n'est pas tant destructeur d'emplois, mais que c'est générateur de pression. Puisque derrière ce que vous disiez, derrière la télédéclaration, il y a un agent. Et derrière la télédéclaration, il y a un usager. Et parfois, l'usager, il a envie de télédéclarer, mais il a aussi envie d'avoir le conseil qui va lui permettre de comprendre ce qu'il télédéclare. Et donc, on est obligé de faire fonctionner 2 choses en parallèle, la télédéclaration et puis des numéros verts, des numéros d'appel, voilà. Donc, finalement, les emplois ont un peu disparu, mais la pression, elle est restée, et là aussi, ça n'a pas forcément facilité l'adhésion totale des agents de la fonction publique. Bon. Je vais être beaucoup plus positive. Nous, ce qu'on demande au niveau de la CFDT, c'est que... On puisse faire du numérique un outil de la qualité de l'action publique et du service public. Et que donc, on n'est pas du tout dans une position de rejet ou de refus, on est plutôt dans une position d'ouverture en disant il faut aider les agents à se l'approprier, il faut les former pour qu'ils se l'approprient, il faut les écouter dans ce qu'ils peuvent avoir à apporter de construction et de conception de l'outil. Et puis, il faut aussi que cet outil, je vais en terminer là, finalement, il leur envoie un certain nombre d'avantages. Et dans les avantages, il y en a un qui est très clair, c'est le télétravail. Le télétravail, alors c'est pas, je veux dire, c'est clair que les infirmiers ne vont pas télétravailler demain, encore que le développement de la e-santé. Bon. Mais le télétravail, ça fait partie des contreparties du numérique qui intéresse fortement les agents. Alors, on a mis un peu de barrière, puisqu'on vient de négocier le télétravail dans la fonction publique. On a mis un peu de barrière pour que ce ne soit pas un isolement total, donc que les agents aient toujours un rapport avec le collectif. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, va répondre très clairement à des préoccupations d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Quand tu habites à Marne-la-Vallée et que tu travailles à La Défense, il y a des matins, tu t'en aperçois bien quand même, et des soirs aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui va aussi aider les agents à peut-être mieux appréhender le numérique.
Bénéfice du numérique, du coup, effectivement, enfin, il y a l'équilibrage personnel, qui est un bénéfice en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est de quelle manière, finalement, on peut rendre plus qualitatif le service public avec le numérique plutôt que de le voir comme dans une optique de prédation ou de remplacement. Par rapport à ce que disait Muriel tout à l'heure, c'est effectivement dans un monde d'hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation passe par une capacité finalement d'adaptation de l'agent à ses demandes d'hyper-personnalisation et puis sur une capacité à la servir. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas d'hyper-personnalisation sans données et il n'y a pas de données sans, à un moment, libération de ces données ou pas. Je pense que ça peut être un thème intéressant pour la suite. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est à la fois travailler côté Etalab, donc libération des données de l'État d'un côté, pas toutes, pas n'importe comment, avec une certaine forme de gouvernance des données, et aujourd'hui, finalement, côté Uber et disruption, ou en tout cas évolution, on va dire, parce que j'aime pas trop le terme disruption, parce qu'il fait toujours un peu peur de manière un peu artificielle, en tout cas évolution de services à la demande, basé de manière évidente sur une congrégation de données qui sont la localisation, qui sont la personnalisation, qui sont l'évaluation dans les deux sens. Finalement, comment dans cet univers-là, l'univers de la donnée, l'hyperpersonnalisation, le bénéfice pour les agents, comment tout ça peut être mis en commun ? Pour qui veut ?
Bon, c'est vrai que la question des données, bon, tu es peut-être plus... au cœur même du système. La question de la libération des données, c'est un peu la question de la transparence. Et en matière d'administration publique, le sujet, c'est la transparence, à tous les niveaux d'ailleurs. Nous sommes les premiers, en tant qu'organisation syndicale, à réclamer des bilans sociaux. Parce qu'en disant, effectivement, on a besoin que chaque année, l'employeur nous renvoie une image de ce qui s'est passé en termes d'emploi, ce qui s'est passé en termes d'évolution des rémunérations. Bon, voilà. Donc on a ce sujet, effectivement, de la transparence, là encore, pareil, équilibre, y compris pour nous. Et puis, on est bien persuadé qu'on doit, qu'on doit au sens propre du terme, qu'on doit aux citoyens une image de la transparence de la vie publique. Alors, nous, en tant qu'agents, on est plutôt en producteur de données. L'idée de libérer les données, c'est un choix du politique. Mais si on veut à un moment que des choses se construisent dans les territoires, si on veut qu'à un moment la question de l'aménagement du territoire puisse être posée, il faut, me semble-t-il, que les acteurs du territoire aient des accès aux données. On a eu pendant trop longtemps, mais c'était même pas forcément de la vie dissimulée, c'était que pourquoi est-ce qu'on aurait ouvert nos données ? Enfin, je ne sais pas comment tu te le vois, ce n'est même pas que de la dissimulation. C'est que les données, c'était quelque chose qu'on construisait, on les construisait pas forcément pour les utiliser. Bon, mais là, je sors de mon devoir de réserve. Mais on les construisait pour les construire. Il y avait un petit côté, je construis de la donnée. Bon, le fait de les libérer, ça peut, nous semble-t-il, être un outil d'un développement auquel on aspire.
Juste peut-être justement avant de passer la parole à Alexandre, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est la libération des données, c'est une décision politique. Certains pourraient dire que ce n'est pas une décision d'une certaine manière politique en tant que telle, ou en tout cas pas uniquement une décision politique, pour la simple et bonne raison que d'une certaine manière, d'autres organisations, que ce soit des organismes privés ou des organismes publics ou parapublics, peuvent être, ou associatifs d'ailleurs, peuvent être en mesure de constituer un réseau de données parallèle qui va pouvoir reconstituer un certain nombre d'éléments, je pense typiquement, si on prend un exemple comme un service comme Waze, hein, aujourd'hui qui a été racheté par Google, a autant, si ce n'est plus, de données sur le trafic en temps réel de ce qui se passe à Paris que la préfecture de police, basée sur la déclaration et sur l'initiation finalement de données en mode de communauté, hein, par du crowdsourcing. De la même manière, aujourd'hui, c'est une discussion qu'on a eue avec Laurence il n'y a pas très très longtemps dans le cadre d'un Digitalk, avec notamment un médecin, qui était fort farouchement opposé à l'évaluation des médecins par les patients, et pour de très bonnes raisons, sauf que ça existe déjà, et de manière pas forcément structurée, mais ça existe déjà. Donc c'est toujours intéressant de savoir finalement la gouvernance des données, quel est le poids du politique et quel est le poids finalement de l'expérimentation par d'autres biais de génération de données.
Alors, je pensais en particulier à un certain nombre de données qui sont sans doute accessibles par d'autres, mais si on revient sur des données fiscales, si on revient sur des données sociales, bon, c'est quand même un petit peu encore des choses qui sont la page d'administration.
Les données de santé, c'est une discussion intéressante.
Alors, les données de santé. Les données de santé, c'est un vrai sujet. Mais même, pardon, excusez-moi Brigitte, vous prenez, nous, côté poste, on a été sujet à l'ouverture des données d'adresse. Vous dites, bah ouais, ça, je mens bien. Comme ça, après, Uber marche bien et tout. Ouais. Vous voulez donner votre adresse ? Alors, Nicolas Petit, de Microsoft, son adresse perso, c'est une donnée perso. C'est une donnée perso. Vous n'avez pas forcément envie de donner votre adresse. Donc ça ne relève pas de quelque chose qui se décide comme ça. Ce que l'on a donné en open data, c'est les adresses. Oui, le 183 rue Le Courbe, dans le 15e, existe. Mais ceux qui y habitent, non. Donc c'est aussi ça le sujet. La nature de la donnée n'est pas neutre et pose la question des gens. Parce que ces données, elles appartiennent d'abord aux gens. Mes données de santé, elles sont d'abord à moi.
Bien sûr.
Mes données fiscales, elles sont d'abord à moi. Avant que quelqu'un décide de s'en servir pour autre chose. Cet univers de transparence, pour moi, il passe autour de l'empowerment des gens. Hein, je trouve jamais le mot français. Mais vraiment l'incapacitation des gens sur le fait qu'on leur demande leur accord de manière explicite et pas au 43e article du machin déposé dans le Delaware. En termes de CGU, mais on leur demande explicitement leur consentement et on leur dit à quoi elles vont servir. Moi, ça me semble être quelque chose, mais fondamental du monde de demain et du monde, qui est peut-être même d'ailleurs le monde d'aujourd'hui, mais en tout cas du monde dans lequel on est et où on va encore croître et embellir. Pardon,
c'est vraiment cette notion de transparence, hein, dont on parlait tout à l'heure, effectivement, de dire qu'est-ce qu'on fait de la donnée, où est-ce qu'elle va être stockée et à quel effet. Après, on le voit bien dans les logiques aujourd'hui de plateformisation, encore une fois, je ne sais pas si on parlait de ce terme-là, mais enfin, en tout cas, de commencer à collecter des données, finalement, qui, prises isolément, n'ont pas forcément un impact ou une importance particulière, mais qui, remises ensemble et retravaillées ensemble, et on voit bien aujourd'hui avec toutes les technologies qui sont à notre disposition d'analyse des données, etc., peuvent avoir un sens très différent et du coup peut-être un impact sur lequel l'usager n'était pas du tout prêt au démarrage. Donc cette notion de gouvernance autour de la donnée est effectivement un sujet, je pense, hyper important. Comment les acteurs publics et les travaillent ensemble autour de ce thème de la gouvernance de la donnée et à un moment donné, quelles sont les données que l'usager doit effectivement contrôler en termes de partage, en termes de publication, en termes de réutilisation à des fins, qui soient d'ailleurs de services publics ou des fins autres. Tout ça sont des questions, je pense, extrêmement importantes. Et peut-être Alexandre, qui a effectivement passé du temps chez Etalab, donc dans les réflexions autour aussi de la publication de la donnée publique et qui maintenant œuvre chez Uber, donc dans une démarche très différente de traitement, d'analyse et de capitalisation et de monétisation de la donnée. Quelle est ta réflexion sur ce sujet-là ?
Alors d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis venu pour parler d'Uber, je ne pensais pas qu'on parlerait autant d'ouverture des données publiques, donc comme quoi ça me poursuit aussi, je suis content. J'ai passé 4 ans effectivement sur les sujets d'open data, d'ouverture des données publiques, de partage de l'information publique entre les administrations, les usagers des services publics, les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les start-up, et que ce soit pour un motif de transparence, comme Brigitte le disait à l'instant, ou pour un motif de co-construction de services entre le public et le privé, je crois qu'il faut, L'open data permet de répondre à ça. Je pense qu'il ne faut juste pas se tromper de débat. Il y a le débat juridique sur l'encadrement, sur, au fond, même l'harmonisation de cette liberté publique. Muriel parlait d'empowerment. J'en ai un autre, l'accountability. Et je n'ai pas la traduction en français. Alors on parle de responsabilité, de rendre des comptes. Oui. En réalité, qui sait peut-être ici que cette notion, on la retrouve extrêmement bien détaillée dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette notion de, au fond, rendre des comptes, que l'administration et ses agents publics doivent rendre des comptes, je parle bien d'une obligation, de service public, doivent rendre des comptes aux usagers et en règle générale à tout citoyen, à toute entreprise, c'est important parce que, encore une fois, l'administration, même si elle a des zones de secret, des secrets légitimes, encadrés par la loi, on pense au secret de la défense nationale, par exemple, assez facilement, il y a aussi évidemment des endroits où, et c'est par principe, a priori partout, elle doit rendre des comptes sur ce qu'elle fait. Sinon, c'est l'arbitraire, sinon, c'est un risque de retomber dans les travers de l'ancien régime. Et c'est pour ça qu'on retrouve cet article 15 de la DHC. Pardon pour ce parallèle-là, parenthèse, mais je pense que c'est important. Il y a ce débat juridique. Ce que j'ai pu voir, je veux juste témoigner de ça, parce que l'occasion m'est donnée, mais c'est plus un débat culturel. On a passé, moi j'ai eu la chance de passer 4 ans avec une équipe de mordus, de convaincus, de gens déjà absolument, qui avaient déjà compris la question de la data avant même qu'elle soit un sujet, si je puis dire. On a eu une petite troupe avec aussi des agents publics, des contractuels. C'était une Etalab, c'est une équipe qui est très cosmopolite en termes de profil, mais qui mélange un peu aussi ces deux sphères-là. Et on a passé 4 ans, enfin, en tout cas moi j'ai passé 4 ans, et je trouvais que c'était une expérience extrêmement intéressante, à convaincre, et on a eu ces débats-là sur la base adresse, long sujet. Évidemment, il ne s'agit pas de dire où Nicolas Petit habite, avec le code de son immeuble et peut-être le nom des personnes qui sont dans son appartement. En revanche, permettre à des entreprises, à des start-up, de reconstituer facilement un plan cadastral, le plan des rues, de pouvoir géolocaliser, c'est une donnée qui existait au sein de la Poste, et la Poste a compris aussi cet intérêt, y compris pour elle, à ouvrir, à partager cette donnée. Et on a foultitude d'exemples, je peux en parler des heures, donc je ne vais pas vous résumer 4 ans en l'espace d'une heure. Mais voilà, donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'exemples, que ce soit sur la partie plus transparence démocratique, la réserve parlementaire, c'est un exemple aussi. Une pratique, il n'y a aucun encadrement légal. Des députés, les sénateurs distribuent encore plusieurs centaines de millions d'euros chaque année à des associations ou des collectivités territoriales. Jusqu'en 2013, ça se faisait en toute opacité. Il n'y avait aucune accountability, pardon pour l'anglicisme, mais sur ces pratiques-là. Donc c'est autant de démarches qui sont importantes. Je ne voulais pas m'éterniser trop là-dessus. Je pense qu'une des dimensions aussi sur le dessin de Louison, qui est le citoyen, l'usager et aussi le consommateur, parce qu'au fond, on est tous concernés. On pourrait rajouter même une quatrième dimension, l'agent public. Le numérique, c'est pas... pendant très longtemps, on a cru qu'il y avait une économie numérique en parallèle de l'économie réelle. On parlait même d'économie virtuelle versus économie réelle. Et je pense qu'on a... On a passé ce cap-là. Le numérique est partout. Il est dans les communications, il est dans l'agriculture, on en parlait avec Brigitte juste avant le début du débat. Il concerne l'émergence de nouvelles technologies concerne absolument tous les champs de la vie sociale, de la vie sociétale, de l'économie. Et donc la question, c'est pas, je rejoins totalement Muriel, c'est-à-dire que la question, c'est pas comment on rejette ces nouvelles technologies qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans, pour mieux rester dans le XXe siècle, par ailleurs. Parce que c'est ça l'effet immédiat du rejet brut de nouvelles technologies, c'est que non seulement vous ne vivez pas dans le collectif tel qu'il est, mais en plus vous n'êtes pas en capacité de répondre, et je pense que c'est le point le plus important, vous n'êtes pas en capacité de répondre aux attentes, aux usages des citoyens, usagers, consommateurs, agents publics. Et c'est le drame, c'est-à-dire que il y a quand même encore quelques secteurs. Je vous ai, même si on est au Saint-Fiacre, promis, je tape sur personne ce soir. Mais la réalité, c'est qu'on a encore quelques secteurs d'activité dans notre pays qui, soit pour des raisons culturelles, soit pour des raisons de principe, mais aussi, il y a de ça, rejettent l'appréhension, l'usage, l'intégration dans les modèles économiques existants d'un certain nombre de nouvelles technologies. pour ce qui concerne Uber, Uber, c'est une boîte qui a 5 ans et demi. Elle n'en fait pas partie des GAFA, puisque GAFA veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple. On est une boîte qui n'est pas cotée en bourse. On est une boîte qui s'est lancée il y a 4 ans. C'est-à-dire à peu près, pour vous donner un marqueur temporel en France, on s'est lancé il y a 4 ans en France, c'est-à-dire à peu près au même moment où François Hollande est élu président de la République. Ça n'a aucune corrélation. Enfin, en termes de temps politique, en termes de compréhension des enjeux de ce qui peut se passer sur le développement d'un secteur, puisqu'on est, on intervient, on a un service de mise en relation via une application mobile qui permet de connecter des chauffeurs professionnels avec leurs clients. Ce service-là, entre fin 2011, début 2012, quand on arrive en France, jusqu'à il y a 3 ans, jusqu'en début 2013, mi-2013, c'est un épiphénomène. J'ai eu la chance, j'ai entendu parler d'Uber très vite, et j'étais un des premiers utilisateurs d'Uber en France, 7 décembre 2011. Donc, j'ai utilisé Uber dès le départ, dès les premiers jours, mais ça n'a rien à voir par rapport à Uber tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec énormément d'entreprises qui se sont créées, un peu plus de 12 000 sur l'ensemble du territoire, des entreprises de transport qui n'existaient pas il y a 2 ans, qui n'existaient à peine il y a 3 ans et demi. C'est-à-dire que les entreprises les plus vieilles du secteur, je ne parle même pas d'Uber qui s'est lancé il y a 4 ans, elles ont 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'on parle aussi, on est sur un secteur qui historiquement avait une offre drastiquement retenue ou en tout cas très peu développée. Il y avait les transporteurs taxis et puis quelques transporteurs par-ci par-là disséminés sur le territoire. Au fond, et parce que ça avait été un choix aussi des acteurs, hein, je ne parle même pas pour le coup de l'État, je ne suis pas sûr qu'il y ait un choix politique particulier, mais il y avait une offre retenue sur le secteur de la mobilité, et effectivement avec l'ouverture du marché aux voitures de transport avec chauffeur, et l'émergence aussi il y a 5 ans, à peine 6 ans, de smartphones, d'applications mobiles, de la technologie de géolocalisation, et tant d'autres, parce qu'il y a aussi plein d'autres données, plein d'autres technologies. Je reviendrai sur les données justement, parce que j'ai entendu Laurence dire on monétise. Chez nous, on ne vend pas les données. C'est-à-dire que c'est un point très important. On n'est pas nous, on propose un service de mise en relation à des entreprises professionnelles. On ne vend pas de pub. C'est-à-dire que l'entreprise professionnelle pour utiliser Uber, c'est gratuit. Si elle veut en sortir, c'est gratuit. Il n'y a pas d'exclusivité. Et nous, on ne prend que 20% de frais de service sur chaque course. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne monétise pas justement les données de nos... Un peu comme à la Poste, si j'ai bien compris l'exposé de Muriel. C'est-à-dire qu'on ne monétise aucune donnée des utilisateurs de la plateforme. On est assez tranquille pour le dire, on ne le fera pas. D'abord, ce n'est pas notre business model, ce n'est pas notre envie, ce n'est pas notre philosophie. Donc il y a au contraire une approche très, très stricte des questions de vie privée et de données personnelles chez Uber. Dans une entreprise qui, par ailleurs, apprend encore, on a, je vous l'ai dit, 5 ans et demi, 4 ans et demi en France. Et, il y a 2 ans, Uber, hein, 2 ans, 2014, au début des débats parlementaires sur la loi TFNU, Uber, c'est 7 personnes en France. Et malgré ce qui s'est passé ces 2 dernières années, donc on a continué à croire dans le pays, on a continué à investir. Je suis arrivé un peu plus d'un an et on est maintenant 75. Et on se développe dans une douzaine de villes, de grandes villes françaises, on continuera à se développer et on croit dans le potentiel du pays. Je veux juste revenir sur l'incise commerciale aussi, hein, comme j'ai entendu que Muriel le faisait, alors je me suis permis. Je mets ça sur le dos de la Poste. Au cœur, dans les fondamentaux du service public, il y a un principe qui est le principe de mutabilité, qui au fond oblige les administrations à toujours s'adapter en permanence aux nouvelles circonstances, notamment à la nouvelle donne technologique. Et de ce que j'ai pu voir dans les administrations, j'ai passé 5 ans et demi dans les services du Premier ministre, il n'y a pas de, très majoritairement, il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas d'agents publics qui sont hostiles aux nouvelles technologies. Il n'y a pas de rejet massif du numérique, bien au contraire. D'abord parce qu'on l'utilise tous dans nos vies au quotidien, globalement, d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que pour acheter un billet de train sur la SNCF, enfin sur Voyage SNCF, ou voilà. On est quand même, a priori, tous plutôt connectés, et de plus en plus. Et la France n'a pas du tout à rougir sur sa place en termes à la fois de création de boîtes et d'équipements et de connexion, de connectivité. Mais fondamentalement, moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, sur l'open data pendant 4 ans, c'est beaucoup plus de réflexion des agents de dire « Ok, si on ouvre les données publiques, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Quels vont être les usages ? » Vous nous dites qu'il va y avoir des usages, il va y avoir des start-up. Donc le rôle aussi d'Data Lab, ça a été ça, c'est de connecter aussi des réutilisateurs de données, que ce soit des associations, que ce soit des journalistes, que ce soit des chercheurs, que ce soit des start-up, que ce soit des entreprises, et potentiellement aussi des entreprises publiques, de grands groupes, et même des administrations. Je disais à Brigitte juste avant le débat, on a eu un exemple très intéressant il y a quelques années, quand j'étais là, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement mesurait la pollution dans les rivières, et le ministère de l'Agriculture mesurait la pollution dans les champs qui bordaient, qui étaient à côté des rivières. Et donc personne n'avait vraiment pensé à partager les données et à croiser ces données et à voir quels étaient par ailleurs les bienfaits en termes de politique publique que ces deux ministères pouvaient avoir. Le fait que les deux ministères ont été engagés dans cette politique en 2011 d'open data, et les agences se sont parlé aussi. Et ce décloisonnement, au fond, je pense que voilà, ce qu'apporte le numérique, et je terminerai là, mais ce qu'apporte le numérique en termes de culture pour les agents publics, pour les services publics et évidemment pour les citoyens, et c'est ce qu'ils demandent, ce qu'on demande tous, de la simplicité, de l'efficacité. Effectivement, je pense que l'exemple de la carte vitale, j'en ai moi-même fait les frais, et j'étais assez sidéré de voir qu'on devait attendre que le mot de passe nous parvienne par la poste. Ça a mis plus que 10 jours de mémoire, et c'est pas le fait de la poste, je pense que c'est sans doute pas à cause de la poste. Mais c'est-à-dire que là, il y a un décalage qui se crée, voire même un fossé et une rupture, et par rapport à notamment des générations d'usagers des services publics, parce qu'on l'est tous, c'est sans doute le plus grand drame, c'est qu'il y a cette rupture qui se consomme, qui augmente au fil des années. Après, voilà, il y a des exemples, on en parlait tout à l'heure, enfin, tu donnais des exemples, Brigitte, sur Louvois, par exemple, c'est des exemples un peu ratés dans l'administration. Il y a aussi des très beaux projets, il y a des très bonnes choses qui se font. Je pense que voilà, le numérique apporte aussi une touche d'optimisme, dans la mesure où ça permet, y compris pour les entreprises privées, de se renouveler ou de penser à comment améliorer son service client, par exemple, tout bête. Darty n'est pas forcément le meilleur des exemples à ce titre-là. Désolé s'il y a quelqu'un de Darty dans la salle. Moi, je reste un peu dubitatif parfois quand je vois les services publics clients après-vente de ce type d'entreprise versus l'efficacité à tout rompre d'un vente privée, par exemple.
On voit bien dans la démarche de transformation numérique, on parlait des grands projets, je pense qu'aujourd'hui l'approche de transformation numérique s'éloigne finalement de ces très grands projets un peu tunnels où on est dans une transformation massive d'un back-office, mais bien plus dans des démarches de type État Lab, start-up d'État, etc., où la co-construction est importante, où l'agent effectivement est mis finalement au cœur de cette réflexion de transformation du service rendu, et où la libération des données amène finalement une réflexion nouvelle sur des nouveaux services peut-être à offrir également. Enfin, prenez cet exemple des données de pollution qui sont assez frappantes. Sur le simple fait de publier, de faire connaître l'existence de ces données peut amener une efficacité plus forte dans le service rendu et aussi une intelligence peut-être plus grande dans l'information qui est à disposition aujourd'hui de l'administration ou des administrations. On le voit bien, le numérique, je pense aussi, amène une transversalité et une rupture des silos que l'on connaît dans toutes les organisations, d'ailleurs, qu'elles soient privées ou publiques. Il n'y a pas forcément, de différence majeure. Donc, Brigitte, vous vouliez intervenir ?
Je voulais revenir sur, finalement, alors, pour l'ensemble des salariés que sont quand même une partie importante des gens de ce pays, et pour les indépendants aussi, puisque c'est le cas, il y a un souci d'individualisation, on l'a dit, et c'est vrai qu'il y a pour nous un petit espoir, et en tout cas quelque chose qui va se concrétiser, en tout cas on l'espère, qui va se concrétiser bientôt, c'est la possibilité d'avoir pour chaque salarié, chaque personne au travail, un compte personnel d'activité. Donc avoir à un moment la possibilité de constituer un lieu où des droits individuels seront stockés, ensilés et utilisables au besoin. C'est vraiment là que le projet de loi El Khomri est d'accord, mais c'est là que le numérique peut avoir un intérêt très fort pour chacun d'entre nous. Alors, vous êtes nettement plus au fait du numérique que moi, mais en tant que salarié, c'est sympa, enfin salarié, je dis toujours salarié, en tant que voilà, personne au travail, c'est bien de se dire qu'au lieu d'aller chercher qu'est-ce que j'ai dans mon compte formation, à quoi je peux prétendre en tant qu'épargne-temps, ah oui tiens, qu'est-ce que j'ai fait comme, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme pénibilité, comme travaux, comme ceci, comme ça, qu'on ait effectivement à un moment la centralisation de ces informations à titre individuel, et puis voilà, derrière, qu'on puisse les utiliser. Donc nous, on y voit, voilà, dans le numérique, on y voit aussi un progrès pour le salarié en tant que capacité à connaître ses droits, à les consulter et, voilà, et bien entendu, derrière, les utiliser.
Le dernier Rubicon à franchir pour vraiment bien connaître le CPA, et c'est une super idée. Je sais que c'est une idée très poussée CFDT et c'est une idée magnifique. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans ce que le El Khomri, la loi El Khomri est en train d'apporter, mais peu importe. L'important, c'est que ça passe. Les derniers mètres à franchir, c'est de comprendre la puissance de l'usage. Le numérique, ça marche si vous satisfaites un besoin ou si vous remplissez un vide, si vous résolvez un pain point. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un univers où... Pardon, Jérôme, après, il faut qu'on vous laisse parler.
Oui.
Mais vous n'êtes plus dans un univers... Et ça, c'est très dur dans l'univers public. Vous n'êtes plus dans un univers où vous convoquez les gens dans votre système. C'est fini. C'est pas comme ça. C'est vous qui venez... Ça vaut pour les agents, d'ailleurs, hein, quand vous parliez de formation... Pour les plus âgés d'entre nous, vous vous souvenez de cette époque où il y avait des informaticiens qui développaient des solutions, puis on passait 4 heures, parfois 4 jours, parfois 4 semaines, à apprendre comment marchait l'application, parce que le gars, au lieu de faire Enter pour faire Enter, il avait dit qu'il fallait faire F5. Si on racontait ça à nos jeunes, ils diraient « mais vous étiez dingue, on n'a jamais été formé à l'usage d'une tablette ». Le gars qui a développé les tablettes, il est allé observer des centaines de personnes avant de faire sa release, et il sait très bien où il faut mettre les clics et où ça marche. C'est des choses qu'il faut faire, mais de base, quand on veut basculer dans des formations et dans des conceptions d'outils. Mais le truc qui manque encore, pour moi, de mon point de vue, hein, et je parle en tant que citoyenne, en tant que postière, en tant que patronne, c'est qu'il faut comprendre que ce qui marche, c'est l'usage, et vous devez correspondre à la satisfaction d'un usage ou d'un besoin. Vous ne pouvez plus être dans une histoire où vous convoquez l'usager ou l'utilisateur, le end-user, dans le système. Le CPA, c'est super, mais la probabilité que je me lève le matin en disant « Ouf, il faut que j'aille voir mon CPA aujourd'hui », elle est super faible, Brigitte. Elle est super faible. Alors que la probabilité que je me lève le matin en sautant sur mon smartphone pour voir... qu'il soit Microsoft ou quoi que ce soit, sur mon smartphone, pour voir les mails qui sont tombés dans la nuit ou les nouvelles dans la nuit, elle est extrêmement élevée. Je l'ouvre en moyenne entre 120 à 150 fois, 20 fois pour téléphoner. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire passer dans la sphère publique. C'est vous devez venir vers et pas attendre de convoquer dedans. La déclaration fiscale qui est un truc génial, moi je trouve ça génial, je ne sais pas où est Louison, mais je trouve ça génial, vous êtes juste obligé de la faire. Oui. Ah non, mais il va y avoir des univers où on ne va pas être obligé de le faire.
Alors, il y aura des... Non, je réponds juste là-dessus, mais j'entends ce que vous dites. En même temps, c'est déjà mieux que d'aller voir son responsable du personnel pour lui dire, dis donc, il ne me reste pas un peu de temps sur mon compte personnel de formation. Donc voilà, ça peut marcher si effectivement derrière, on a un accompagnement, parce que bon, voilà. Et puis, on est quand même dans des systèmes sociaux où on sait tous, même quand on est agent de la fonction publique, qu'on aura des ruptures. Changer de poste, mais bon, quand on est salarié, changer de boutique, changer d'entreprise. Donc voilà, c'est en ce sens et dans ce sens de l'accompagnement que, oui, la CFDT l'a beaucoup porté, mais pour moi, cette histoire de personnalisation, d'individualisation du compte et ce que le numérique permet, c'est-à-dire de stockage et de consultation des données à distance, ça me paraît effectivement un gros plus voilà, pour tous les salariés.
Alors, sans transition, parce que finalement, je crois que le temps est compté et on voudrait vraiment écouter également Jérôme qui est au cœur d'un grand projet industriel de service public, la Société du Grand Paris, le grand métro parisien, donc mis en service 2022, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Comment le numérique aujourd'hui est intégré by design au démarrage de ce grand projet? Comment l'usager et les besoins, je ne sais pas quels seront les besoins des usagers dans 5 ans, mais en tout cas aujourd'hui, quels sont les... les réflexions numériques intégrées dans la conception de ce projet industriel qui a vocation à vivre au moins 10 ans.
Bon, effectivement, je vais parler d'un sujet qui n'est pas de l'extrême court terme. Et chacun sait que Steve Jobs gardait toujours le meilleur pour la fin, et Gates et Jobs aimaient beaucoup, donc vous faites pareil d'une certaine manière, ce qui est très bien. Bon, donc le métro du Grand Paris, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas vu, puisqu'il n'existe pas encore. Ce que vous allez voir dans peu de temps, c'est des chantiers, c'est vraiment le chantier du siècle, peut-être pas à la mesure de ce qu'ont été les chantiers d'Haussmann, qui ont vraiment totalement bouleversé la ville de Paris, mais là, on parle de la banlieue, puisque c'est le métro du Grand Paris, c'est un métro qui va être plutôt en rocade autour de Paris, et les chantiers démarrent cette année, en fait. Il y a eu 5 ans d'études, il y a eu une loi sur le Grand Paris en 2010, il y a eu 5 ans d'études et de travaux divers, et on va rentrer dans la phase de chantier qui vont effectivement bouleverser la vie surtout des gens qui vivent en banlieue, puisqu'il va y avoir 68 gares, des puits de sécurité tous les 800 mètres, et c'est donc un chantier absolument colossal. En tout, il y a 200 km de métro souterrain, donc c'est bon, gigantesque. Et la première mise en service, c'est ça qui vous intéresse, c'est effectivement 2022, qui permettra de gagner beaucoup de temps pour aller d'un point à un autre, mais essentiellement en banlieue. Aujourd'hui, vous savez que les réseaux de transport sont essentiellement radio, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt vers Paris. Et là, on va aussi avoir l'accès aux aéroports simplifié, l'accès. En gros, c'est un métro qui va relier toutes les banlieues de première et essentiellement de première couronne entre elles, et également les aéroports et les grands centres économiques. Je pense en particulier au plateau de Saclay. Donc c'est vraiment un bouleversement de la région Île-de-France qui se prépare, qui va se faire de manière un peu souterraine, mais c'est ça, ce projet que je représente ici, et moi je suis chargé du numérique. Et donc mon job, en fait, c'est d'enchanter le métro. Bon, c'est de faire la transformation numérique du métro, non pas que la SNCF et la RATP n'y pensent pas, ou d'autres opérateurs de transport, mais là, on part d'une page blanche, et au fond, si on ne le faisait pas, je pense que ce serait considéré comme une erreur stratégique et même historique. Donc on va le faire à fond, et on s'est fixé un objectif un peu ambitieux. On a dit, on va faire le métro le plus digital du monde. Du monde, parce que c'est bien de se fixer des défis, il faut être toujours essayer d'être champion du monde. Et digital, pourquoi ? Parce que digital par rapport à numérique, parce que dans digital, il y a vraiment la notion de service. Enfin, c'est mon interprétation. On aurait pu dire numérique, mais on dit digital. D'abord, le mot est plus sympa, et vraiment, ça évoque la notion de service. Parce que, au fond, ce qu'on va chercher à faire, c'est grâce aux réseaux, tous les réseaux de communication électronique qu'on va déployer dans le métro, de toutes sortes. Il y aura bien sûr de la fibre optique, mais beaucoup de réseaux sans fil, avec surtout des technologies qui n'existent pas encore, mais qu'on pourra accueillir au fur et à mesure où elles arriveront. Et tous ces réseaux vont être déployés pour que les voyageurs aient tous les services possibles et imaginables, y compris ceux d'ailleurs qu'ils imagineront. Alors, la manière de faire ça, il y a des questions très classiques de techno, mais au-delà de ça, on a effectivement, comme l'a évoqué Laurence tout à l'heure, une approche d'open design. On a associé une centaine d'acteurs, des opérateurs de communication électronique bien sûr, mais aussi des industriels, l'Institut Mines-Télécom, enfin des gens qui ont une très très bonne connaissance de toutes ces technos actuelles et peut-être celles qui vont arriver après, dans un exercice de définition des spécifications techniques de ces réseaux. Et ayant fait ça, on est à peu près certain que quand ça va démarrer, il y aura effectivement des réseaux, et je pense par exemple au dimensionnement de la fibre optique, qui permettront d'accueillir des flux de données qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, puisque en 2022, les choses vont évidemment avancer très vite encore. Et si on se projette 20 ans après, qui est capable d'évaluer les flux de données en Île-de-France ? Bon. Donc, l'idée, c'est qu'on a cette approche d'open design derrière des infrastructures, je veux dire. Derrière, on a dit aussi qu'on allait être natif open data. C'était un métro natif open data. Alors, ça ne veut strictement rien dire, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que dès le départ, dès la phase de conception du métro, on va ouvrir les données de conception du métro. Alors, ce n'est plus facile à dire qu'à faire, à vrai dire, parce qu'il y a des données qui sont un peu sensibles. Mais petit à petit, on va ouvrir des jeux de données. Et par exemple, dans quelques jours, on va ouvrir les jeux de données qui correspondent, par exemple, aux sondages géologiques. On fait des milliers de sondages géologiques et on va publier la composition de ces sondages géologiques, donc couche par couche. Petit à petit, on publie les tracés, des lignes, etc., des choses comme ça. On va publier les plans des gares en 2D d'abord, puis après en 3D, de manière à ce qu'on puisse, à partir de ça, imaginer des services. Et l'idée, c'est toujours que certains, pas nous, on n'est absolument pas capable de le faire, mais certains vont imaginer des services. Puis après, il y aura des voyageurs. C'est pour ça qu'on n'est pas très court terme. Ce sujet n'est pas très court terme, mais à un moment donné, il y aura des voyageurs. 2 millions de voyageurs jour, une sorte de multitude, au fond. Et dans ces 2 millions de voyageurs jour, il y aura beaucoup de voyageurs qui arriveront par les aéroports. Et donc, ce métro, avec sa capacité à comprendre les usagers qui sont là, les voyageurs qui sont là, et en recueillant des signaux numériques, sera pourvoyeur de services. En tout cas, on pense que ce seront des données extrêmement utiles pour imaginer des services toujours plus pertinents et plus personnalisés pour le voyageur qui arrive du Moyen-Orient ou celui qui arrive d'Amérique du Sud, et puis bien sûr pour la vie quotidienne des Franciliens. Donc, pour faire ça, on réfléchit aussi à ce qu'on peut faire en matière d'open innovation, d'innovation ouverte. Et faisant cela, je pense qu'on a une démarche assez complète sur la façon de penser une infrastructure de transport comme une plateforme, pour réutiliser cette expression. Une grande infrastructure publique qui va coûter, je le dis, 25 milliards d'euros, c'est un chiffre colossal, on pense qu'elle doit être conçue comme une plateforme numérique. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'aura pas créé sur ces 25 milliards d'euros un effet de levier en termes de services aux usagers, aux franciliens et à tous les gens qui utiliseront ce métro. Je m'en tiens là pour...
Est-ce que je peux juste rebondir, parce qu'il y a un point très intéressant avec les transports en commun s'agissant d'Uber, c'est qu'on est assez complémentaires, on le voit sur toutes les lignes, sur la problématique du dernier kilomètre. Enfin, l'usage des VTC et des applications comme les nôtres sont souvent très, très présents dans les grandes banlieues, dès lors que vous devez rejoindre 2 stations de RER, etc. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Et l'autre point, c'est la question de la congestion dans des villes, ou en tout cas dans des zones urbaines ou périurbaines, comme Paris, sa région, mais même la région lyonnaise, la région marseillaise, qui sont souvent très congestionnées, pardon du terme, par les voitures individuelles. Parce que le point vraiment commun entre les transports en commun et des solutions comme Uber, c'est au fond, on transporte dans l'absolu beaucoup de monde, mais c'est rien en commune mesure par rapport aux 5 millions de voitures individuelles qui sont actuellement dans la région Île-de-France. Une voiture individuelle, il faut le savoir, c'est utilisé 4% du temps. C'est le reste du temps, 96%, ce n'est pas utilisé, c'est stocké, c'est parqué, etc. Et donc, si on arrive tous, par de nouvelles infrastructures aussi de mobilité, à prendre un peu de voitures individuelles, d'enlever les voitures individuelles de la route, en proposant des alternatives, en proposant des choses qui permettent aussi de répondre aux attentes des utilisateurs, des usagers de nos différents services. Au fond, c'est aussi demain des villes qui seront beaucoup moins congestionnées, beaucoup moins polluées. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on a beaucoup de discussions avec, à travers le monde, hein, pas qu'en France, mais avec des sociétés de transport en commun pour regarder les complémentarités.
De toute évidence, donc le métro des Grands Paris est évidemment un service public qui vient compléter des réseaux existants. Et de toute évidence, ce métro n'est qu'un élément, un maillon d'une chaîne d'intermodalité aujourd'hui, puisque chacun de nous, on ne fait pas que prendre tel ou tel réseau de transport collectif. On passe d'un mode à l'autre, et je pense que ça va s'accentuer grâce notamment au numérique, qui va permettre de personnaliser vraiment le parcours qu'on fait d'un point à un autre. Et alors ça signifie évidemment que les données sont partagées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les données en matière de transport ne sont pas totalement ouvertes, notamment toutes les données temps réel, et ça, c'est un très grand enjeu. On sait que les choses devraient aller dans le bon sens, notamment grâce à un travail législatif qui est fait. Mais après, est-ce que tout le monde est prêt à mutualiser toutes les données de transport ? Alors, l'autorité organisatrice de transport, évidemment, donc le STIF en Ile-de-France, va jouer ce rôle. Mais au-delà de ça, il y a bien d'autres données que celles que le STIF peut connecter qui peuvent enrichir l'expérience voyageur. Et la question qui se pose derrière est celle de la donnée à l'échelle d'une région comme l'Île-de-France. Cette idée que peut-être la donnée un jour fera l'objet d'un service public. Service public des données, je parle là de données anonymisées, pas de données qui sont commercialisables. Elles n'ont pas vocation à être commercialisables. Elles ont vocation à permettre d'améliorer les services aux voyageurs. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est absolument pas traité. Enfin, il n'y a aucun débat en France sur la mutualisation des données à l'échelle d'une région. Sachant que, pour moi, ce sujet-là est un sujet qui devrait être européen. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'échelle pour traiter, même à l'échelle d'une région, on n'est pas à l'échelle pour traiter un sujet qui suscite tant de polémiques.
Avec peut-être un point de précision, si tu me permets, c'est-à-dire qu'il y a la problématique du rôle des acteurs publics et des acteurs privés. Dès lors qu'on part sur une logique de création de services, l'État, s'il se positionne sur ce type de marché, sort de sa mission initiale de service public, peut être un acteur, à ce moment-là, en industriel et commercial, mais rentre dans des logiques aussi de libre concurrence, ou en tout cas, il ne doit pas y avoir des jeux qui sont faussés entre les acteurs. La question, c'est un peu ça, c'est de savoir si demain, c'est un peu provocateur, mais est-ce qu'on collectivise les données des différents acteurs, ou est-ce qu'on permet aux acteurs privés d'utiliser les données des acteurs publics. L'approche n'est pas totalement la même. Pareil, comme dirait Muriel, je ne porte pas de jugement de valeur, je dis juste que je pense que c'est un peu les deux options qui sont aujourd'hui quand même un peu en discussion.
La réponse peut ne pas être définitive aussi.
C'est pour ça que c'est une discussion qui est en cours.
On a eu dans l'histoire de nos pays des acteurs publics qui ont été érigés à certains moments pour installer des choses, pour architecturer des choses, pour avoir une éthique et une hygiène des choses, avant de décider, parce que le temps évolue, que les choses bougent, que finalement, ça n'était pas quelque chose qui relevait de la puissance publique. Tu vois
avec la seule limite, tu me permets, parce qu'on est dans la discussion, mais c'est la limite de la profondeur des poches du contribuable.
Tout à fait. Mais qui est aussi en acteur privé, démarrer un projet qui sort en 2020 à 25 milliards, c'est aussi ça l'univers collectif. Et c'est ça après aussi la question qu'on a quand on parle d'un Uber ou qu'on parle des Natou. C'est ça le sujet. Il n'y a pas au-delà de le côté peut-être un peu épidermique du changement et des ruptures que ça pose, mais faisons fi de ça. Le sujet qui est derrière, c'est qu'il y a un collectif, des pots communs qui ont été érigés, qui ont servi à construire la société et qui reposent aujourd'hui sur des KPI qui sont obsolètes. On parle de foyer fiscal, ça nous pose des problèmes, évidemment, quand tu es un acteur international comme toi. On parle de TVA, va-t-on chiffrer la valeur ajoutée dans des univers qui sont full digitaux. Toute cette comptabilité
publique... Dans notre secteur, 120 milliards.
Oui, je sais. Ouais. Toute cette comptabilité publique qu'on a installée, qui est issue de nos énarques en France et d'autres systèmes en Europe, elle est challengée profondément par des acteurs qui lèvent des business models de façon totalement différente. Sauf que la question du financement du collectif reste un sujet. Et il est fondamental à traiter. C'est super important qu'on sache dans quel monde on veut vivre demain, comment on finance des infrastructures collectives, comment on met de l'argent en commun, parce que ça n'est pas possible que tout parte ou que de la richesse se crée et échappe à ces sujets-là. Tu vois, et je trouve que c'est un sujet qui est éminemment de société et éminemment politique dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'acteurs privés se lançant sur un sujet aussi incertain que celui-là. Parce que Jérôme, il a quand même nos vies et le design de nos vies ou de celles de nos enfants qui est un sujet majeur. Comment on va se déplacer en Île-de-France en 2020, comment on va vivre quand tu sais que c'est le fondamental de notre quotidien. Enfin, tu peux transmettre ça ou tu peux regarder ça, à mon sens, que dans un acteur public, hein, qui est censé être pétri de bienveillance, de neutralité et d'une vision qui est une vision entre guillemets ouais, bienveillante. Je ne prétends pas que le privé ne soit pas bienveillant. Hein, tu vois ce que je veux dire ?
Non, non,
mais transparente, accountable, voilà, pour revenir à ton mot.
Mais encore une fois, je pense que c'est assez complémentaire. Mon point, c'était justement de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où nous, en tant qu'acteurs, on a 4 ans, par exemple, en France. Disons que le secteur tel qu'il existe, tel que vous connaissez Uber dans une ville comme Paris, ça n'existait pas il y a 2 ans. En termes juste d'échéance, d'espace-temps. Voilà. Les usages sur la façon dont les gens veulent se déplacer dans une région comme le Grand Paris, la région Île-de-France, on le voit, c'est-à-dire on l'analyse, j'ai envie de dire aussi. Quand vous avez une volonté assez profonde de particuliers voulant être déplacés par d'autres particuliers, dans le cadre sans doute de business model qui reste à inventer, de règles qui restent à définir, des choses dont on doit débattre. On ne peut pas avoir de tabou sur ce genre de sujet. On ne parle pas de savoir. Il y a des sujets beaucoup plus épidermiques dans le débat politique, a priori. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, une start-up comme Itch était ce matin au tribunal, au tribunal correctionnel, parce qu'ils ont un modèle, à un moment donné, qui n'existe pas ailleurs, ou qui a été celui aussi peut-être d'Uber Pop, qui a pu être celui il y a 5 ans sur d'autres modèles, et peut-être avec une autre tarification, celui de Blablacar. Donc il y a un moment donné où la question elle se pose aussi en ces termes-là, c'est-à-dire comment le politique, puisque tu as raison, c'est un choix éminemment politique, reste ouvert aux attentes des gens, des individus, en disant au fond, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens évidemment collectifs, mais qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour répondre aux attentes des citoyens.
Moi,
je voulais juste dire ça, c'est-à-dire que c'est un peu pathétique pour la France quand même de voir que des entrepreneurs sont poursuivis de prison, risquent le tribunal correctionnel, qu'on a aujourd'hui une proposition de loi déposée par des députés qui veulent encore plus pénaliser le transport de personnes. Enfin, pour en parler des heures, je ne suis pas sûr que ce soit des mouvements d'ouverture, voilà, et que ça apaise les choses.
Je pense qu'il y a une vraie question, et peut-être que d'ailleurs l'ensemble de la salle peut réagir sur ce thème, qui est aussi l'évolution tout simplement du droit public et l'adaptation du droit public à l'ère du numérique. Hein. Juste pour prendre un exemple, vous avez peut-être entendu parler de cette start-up de la vallée qui s'appelle Monkey Parking, qui avait la bonne idée de dire « je veux mettre aux enchères inversées les places de parking public dans San Francisco ». Et là, littéralement, on peut poser la question de savoir si c'est de l'entrepreneuriat de bonne loi ou pas, puisque ça consiste à accaparer un bien public, qui s'appelle juste une place de parking non payante, et de les mettre et de capitaliser finalement en faisant un peu du piggybacking, ce qu'on pourrait dire en anglais, et de remettre ça en rendant un service manifeste à l'utilisateur qui a trouvé une place de parking à San Francisco. Si vous n'avez pas été récemment à San Francisco, c'est l'enfer. Donc c'est une vraie discussion aussi sur l'adaptation du droit public et ce qui est du domaine de la politique, ce qui est du domaine finalement de l'évolution de la réglementation et effectivement à quelle vitesse la réglementation aussi évolue et s'adapte par rapport à ces environnements fluctuants. Je ne sais pas, réaction de l'audience, de la salle sur ce sujet-là, ou d'autres d'ailleurs.
C'est le problème du droit qui est toujours plus lent. Il est toujours derrière. Toujours. C'est très difficile de précéder.
Le droit n'est qu'un outil. Après, c'est aux politiques de décider et de dire...
Complètement. C'est pour ça qu'il est après.
Le droit, il n'est pas si lent que ça. Hein, quand il s'agit de contraindre, oui, la loi Thévenoud, elle a été votée en 4 mois, par exemple, à l'Assemblée nationale.
Oui, bien sûr. Mais elle est quand même, elle est quand même derrière, systématiquement derrière.
Et ses impôts,
en 10 ans. Il s'adapte après, suite aux innovations et aux évolutions.
Ce qui, pour moi, est le plus... pathétique, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est le mot qui me vient, c'est le mot que tu disais, Alexandre, ou le plus préoccupant, c'est qu'on puisse encore imaginer résister à ce genre de choses. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait qu'on arrive à partager quand même, c'est que les canuts ont perdu et que les copistes ont disparu. C'était peut-être bien, mais ils ont perdu. Les canuts, pour ceux qui n'auraient pas fait d'histoire, c'est les mecs qui se sont opposés au métier à tisser à Lyon, à l'époque des métiers à tisser. Et ça, c'est moi ce que j'appelle tout le gaspillage d'énergie qui sert à rien. Si ce n'est à monter les gens les uns contre les autres, parce que là, on parle de on est dans le fantasme absolu. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de regarder. Il n'y a pas d'abri anti-numérique. Hein. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. C'est trop fort, c'est trop puissant. C'est trop de choses dont on est empowered. Et si on arrivait déjà à poser ça et à partager ça, après l'adaptation du droit, après les choix politiques, qui sont des vraies belles discussions, parce que, bon sang, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est vachement important, c'est ce qui nous fonde. Mais il y a quelque chose qui reste encore en rémanence, je trouve, dans nos univers, qui est l'idée qu'on peut résister à ça. Moi, je crois profondément que non. On peut rêver d'un monde qui est un monde à nous, avec des règles, et pour peu que la géographie de ce monde-là soit pertinente et ne se limite pas effectivement à l'Île-de-France, en tout cas sur un certain univers. Mais penser qu'on peut empêcher me semble très compliqué. Mais c'est des soubresauts peut-être.
Oui, c'est peut-être les derniers feux de l'Empire romain, ouais. Et le passage d'une régulation ex ante à une régulation ex post,
ouais.
Et qui est une discussion qui est native, qui est très propre aussi à la constitution du droit d'inspiration européenne par rapport à un droit de common law qui fonctionne sous principe jurisprudentiel qui est un petit peu différent en tant que tel. Donc ça sera, je pense, un débat en tant que tel sur l'avenir, sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, le domaine de l'éthique sera une discussion au cœur de la discussion de la gouvernance des données, de la gouvernance des machines et de l'impact que ça aura sur notre vie quotidienne. Donc, c'est des beaux sujets pour finir.
Peut-être pour conclure, on va se déporter en Afrique quelque temps pour aussi voir comment le numérique est mis à profit, ou en tout cas comment des initiatives privées peuvent contribuer à la modernisation et au bien commun. Je suis ravie d'accueillir William Elon, qui arrive. Ça a été difficile, visiblement, mais voilà, il est passé par toutes les fourches codines de l'administration française pour arriver à Paris. On est ravis que vous soyez là. Et donc, William est fondateur de Drone Africa, et je souhaiterais que vous puissiez partager avec nous voilà, ce projet, les ambitions, les objectifs et où vous en êtes dans le développement de cette belle aventure.
D'accord. Merci. Déjà.
Un micro, okay. Peut-être pour.
Non, je crois que celui-ci fera l'affaire, je pense. Comme on vous l'a dit, c'était difficile pour que je sois là. Donc, déjà, je suis content d'être là. Donc, avant tout, avant de dire qui je suis et tout ça, je tenais vraiment à dire merci à Microsoft parce que pour moi, c'était. Je veux dire, c'est assez incroyable parce que hier, à la même heure, j'étais à Douala en train de manger avec ma mère. Donc, on me retrouvait 24 heures plus tard à Paris.